Bienvenue sur Radio Mayuri Campus, ravi de vous retrouver. Mon invité aujourd'hui est Monsieur Jean-Yves Tarcy, président du groupement régional des agriculteurs de Guyane, GRAGE, vice-président de la Chambre d'agriculture de Guyane et vice-président du GIP. SAFER, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur, plaisir, et merci surtout à vous de me permettre finalement de parler de l'agriculture, qui est quand même un métier d'avenir en Guyane, un métier très important finalement pour la vie sur Terre de manière générale.
Alors on constate que vous avez plusieurs casquettes. Est-ce que cela vous laisse du temps pour vous occuper de votre exploitation?
C'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai, c'est une organisation familiale aussi, puisque j'ai deux filles, ma femme mariée, et puis une organisation où il y a la famille. Je prends plaisir en fait finalement à faire ce métier, puisque on a une certaine liberté, on est en plein air, on a un paysage, un cadre de vie magnifique, donc je me plains pas.
Voilà. Cela fait une dizaine d'années que vous êtes installé maintenant?
Effectivement, donc je me suis installé en 2011, plus précisément à peu près 2011, donc avec une production donc tournée vers l'élevage surtout. Au départ, c'est que je faisais de la banane. Aujourd'hui, je fais donc l'élevage de poules pondeuses et également l'élevage de porcs. Je me suis spécialisé en naisseur pour l'instant.
Alors, pendant cette crise sanitaire, on a beaucoup parlé de certaines professions qui étaient plus touchées que d'autres. On a peu entendu parler des agriculteurs. Qu'en est-il?
Il faut dire que les agriculteurs, cette crise nous a permis finalement de nous réorganiser, surtout dans la partie végétale. De manière générale, effectivement, donc on a su s'adapter, on a su créer donc des petits marchés, des points de vente, avec à peu près 6 voire une dizaine d'exposants. On a pu démontrer finalement qu'on a nourri cette population, donc en gros, surtout pour la partie maraîchage, donc on a pu vendre nos produits parce qu'on s'est adapté. Puis il y a aussi la partie vente à distance, donc avec des livraisons, on va dire, sur commande. Effectivement, donc sur la partie viande, donc c'est un petit peu plus compliqué, puisque c'est quand même une production qui passe par un circuit lent. Donc notamment dans les grandes surfaces, la restauration collective et la fermeture finalement des écoles, la fermeture des cantines, donc ça a pénalisé la profession, enfin la partie élevage, parce qu'effectivement le volume a diminué. Donc je crois que c'était de l'ordre de 20% à peu près de diminution du volume habituel. Par contre, il faudrait aussi pas oublier donc nos fleuristes qui finalement n'ont pas pu vendre leurs produits. On l'a bien vu là encore pour la période de fête des mères, donc c'était quand même assez compliqué. Et puis les exploitations qui accueillent, finalement je pense au centre équestre. D'accord, je pense notamment à ceux qui font donc de l'agritourisme, parce que il y en a aussi, donc des agriculteurs qui se sont diversifiés vers la partie l'activité tourisme. Bref, de manière générale, c'est vrai que on n'a pas à se plaindre, on va dire, contrairement aux d'autres commerces qui sont restés finalement totalement fermés. Je pense notamment à toute la partie plaisir, loisirs, que ça soit le cinéma, que ça soit les salons de coiffure aussi, les petits artisans, je sais qu'ils ont été très 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 touchés. Mais on ne peut pas dire non plus qu'on n'a pas été accompagné. C'est vrai que c'est pas suffisant, il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin, mais on a pu bénéficier au niveau de l'agriculture donc de la mesure 21. En fait, c'est une mesure donc qui permet à l'acteur de bénéficier donc de 3 000 euros maximum. Donc c'est sur fonds européens, c'est la Commission européenne finalement qui a pris cette décision de manière exceptionnelle d'aider les agriculteurs sur un fonds géré par la CTG en local, puisque la CTG est quand même autorité de gestion. Donc on a travaillé au sein de la Chambre d'agriculture avec la CTG, avec les syndicats sur cette mesure.
Alors on sait que la grande distribution a plutôt bien tiré son épingle du jeu hein, pendant ce confinement, cette crise sanitaire. Ça a été un des secteurs qui était autorisé pendant toute la crise à rester ouvert et à accueillir du public. Beaucoup de grandes chaînes de magasins ont enregistré des hausses au niveau de leur chiffre d'affaires par rapport à 2018 ou 2019. Cela m'amène au fait à vous interroger sur les relations que vous entretenez, les partenariats que vous avez avec la grande distribution en Guyane. Est-ce que, tous les Guyanais qui nous écoutent ou les internautes qui nous regardent, quand on va dans les grandes surfaces, on trouve de plus en plus des produits locaux, ce qui nous fait très plaisir d'ailleurs. Mais au-delà de ça, est-ce que vous arrivez quand même, est-ce que vous êtes dans une relation gagnant-gagnant avec la grande distribution?
Alors, c'est vrai que on s'est organisé au niveau de la profession, donc on a quand même deux interprofessions, donc pour la partie végétale et la partie animale, donc qui regroupe la partie production, la partie transformation et la partie distribution. Donc effectivement, les grandes et moyennes surfaces sont dedans. Ils participent aux échanges. On passe par eux pour effectivement vendre nos produits, donc notamment via les coopératives de la place. Moi je dis qu'ils sont là, de toute façon ils sont là, il faut faire avec eux. Il y a une quinzaine d'années, donc il n'y avait pas de grandes et moyennes surfaces. En tout cas, il y avait je me rappelle, c'était à l'époque donc un supermarché du côté de Cayenne, mais c'était le seul. Donc on a cette chance là finalement d'avoir des grandes les moyens de survie sur le territoire. Donc ce sont des acteurs économiques, faut faire avec eux. C'est vrai qu'ils ont quand même tiré leur épingle du jeu, parce que bon, ils sont quand même restés globalement ouverts hein, pendant la période. Mais on passe quand même par eux via nos coopératives et via les interprofessions. Il y a quand même des accords commerciaux qui sont signés entre les producteurs et les grandes et moyennes surfaces. Quand je dis les producteurs, via effectivement des coopératifs.
Alors le constat que les consommateurs font souvent, c'est les prix hein, des produits locaux qui sont proposés dans les grandes surfaces. Est-ce que qu'est-ce qui explique ces prix relativement élevés? Est-ce que c'est par rapport au marché qui est extrêmement étroit? Est-ce que c'est par rapport à la production, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment de quantité de produits de proposer, ou c'est parce que les marges que prennent les grandes surfaces sont particulièrement élevées?
De manière générale, donc les prix sur les produits agricoles donc ont très peu évolué hein, parce que comme je le disais sur
je parle des fruits et légumes notamment.
Les fruits et légumes, ça dépend des produits hein. Certains produits effectivement ça a explosé, je pense notamment au citron.
Absolument.
Surtout en cette période de saison des pluies, je pense notamment à laitue finalement qui a aussi explosé, puisque bon, en cette période là on a des développements donc de champignons, on a également donc des parcelles inondées, donc c'est sûr que finalement ça impacte le prix, puisque le produit devient rare.
Rare.
Mais de manière générale, les agriculteurs ont quand même pu maintenir le prix, et ça permet effectivement aux foyers donc de pouvoir bénéficier de produits à moins de coûts, parce qu'on se dit finalement c'est la crise pour tout le monde, donc pourquoi finalement augmenter nos prix et taper davantage sur le portefeuille du client. Donc c'est sûr que la grande surface après, donc ils font quand même leur marge, donc moi je peux pas intervenir là-dessus pour leur marge, mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus preneurs donc de produits locaux.
Voilà. Alors vous êtes éleveur, hein, mm-hmm. vous l'avez dit tout à l'heure, éleveur de poules notamment et de cochons. Vous êtes installé il y a une dizaine d'années de cela à Montcinéry, Tonnet-Grande. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre installation et de votre cursus de formation?
Alors, j'ai fait un BEP, donc brevet professionnel donc au lycée agricole de Suzigny à l'époque. Ensuite, j'ai fait un bac pro professionnel donc au lycée agricole de Matiti, parce qu'il y a eu le transfert à l'époque en début des années 2000. Mm-hmm. J'ai ensuite évolué en BTS. Donc on était à 5 jeunes Guyanais, on a été poursuivre nos études aux Antilles, en Guadeloupe. Mmh. J'ai pu obtenir donc mon BTS, donc c'était un BTS d'ARC, développement d'agriculture en région chaude. Et puis je me suis dit pourquoi pas finalement aller un petit peu plus loin dans mon cursus. Donc j'ai eu une opportunité sur une licence professionnelle protection de l'environnement. À l'époque, il y avait effectivement donc le campus de Saint-Denis.
Tout à fait.
Donc j'ai fait une année donc de licence, j'ai pu obtenir ma licence. Je pensais pas arriver jusque là, je me voyais pas aller à l'université, mais bon, je me suis donné les moyens, j'ai quand même bossé pas mal pour arriver là. Et puis je me suis dit ben pourquoi pas, je suis déjà là, il y avait une promo à l'époque donc qui venait de s'ouvrir donc en master. Mmh. Master aménagement environnement et enfin aménagement et urbanisme et environnement. Donc avec des intervenants qui venaient de Reims. Donc j'ai fait 2 ans master et puis j'ai obtenu mon master. Mmh. Et donc du coup j'ai été travailler, mais je travaillais quand même à côté, j'étais technicien déjà, j'ai fait technicien à la FREDON, donc Fédération Générale de Défense des Organismes Nuisibles.
D'accord.
Maintenant c'est la protection des végétaux. Ensuite j'ai fait le comité régional des pêches, parce que bon, je suis quand même issu d'une famille de pêcheurs.
Okay.
Au village chinois, pêche, agriculture, bon, en tout cas, ce qui concerne le secteur primaire, et on a du potentiel d'ailleurs, même dans la pêche. Ouais, donc j'ai travaillé un petit peu là également, et ensuite j'ai fait, juste avant le comité régional des pêches, j'ai fait l'IFREMER. Donc l'Institut français de recherche en mer. Mmh. Donc là, ben, j'étais cadre. Finalement, je suis pas resté 30 ans, je suis à peu près 3 ans. Ouais, puis j'ai voulu en 2015 finalement m'installer. C'est un choix personnel. Mmh. Je me suis dit, bon, j'ai quand même mon exploitation là. J'ai obtenu donc en 2011. Ben, quand je dis m'installer pleinement, en tout cas développer mon activité, puisque j'avais déjà commencé depuis 2011, comme je l'ai dit, donc
en parallèle
la production, ben, en parallèle, j'étais plus réactif et je me suis vraiment mis donc à temps plein, on va dire, dans l'agriculture en 2015. Je faisais que ça et puis j'ai mis mon argent, j'ai mis en salaire dedans, parce que quand on dit que l'agriculture on a quand même des aides, c'est pas simple, parce que la plupart des aides que nous avons, que ça soit fonds européens ou autres, il faut quand même apporter un certain pourcentage. Donc généralement c'est 25% et puis trouver le préfinancement. Donc si on n'a pas de banque pour nous suivre sur ces aides, c'est quand même compliqué. Donc je me suis lancé à l'époque avec mes propres moyens sur la banane plantain. Je divais à peu près 300 kilos par semaine à un grossiste de la place. Mmh. Et puis je me suis mis à investir sur des bâtiments, investir sur la piste aussi, puisque la piste c'est la voie d'accès, c'est la base, c'est le principal finalement. Ben chaque année en plus j'entretiens, je mets pas mal d'argent là dedans. J'ai pu bénéficier d'une défiscalisation. J'espère que ce dispositif là-bas va se poursuivre, parce que comme la plupart des agriculteurs, sur la création de pistes.
Voilà, oui, c'est nécessaire. C'est la voie de communication entre votre exploitation et la route.
Exactement. Et puis bon, il faut dire aussi qu'à l'époque, le conseil général, j'ai bénéficié donc d'une déforestation sur à peu près 4 hectares. Donc sur la mise en valeur, c'est un dispositif qui continue avec la CTG. Mmh. Également pour le bornage. Donc il y a une aide au bornage, donc on prend en charge 10% et le reste à la charge du conseil général. Donc c'est aussi un dispositif qui continue avec la CTG. Bon, il faut dire que globalement, je suis sur à peu près une vingtaine d'hectares. Okay. Mais c'est très, très, très compliqué, effectivement, à mettre en valeur si on n'a pas les, les moyens, donc en termes humains, mais surtout au niveau matériel.
Mmh. Voilà. Alors, en termes d'effectifs, vous avez des salariés ?
Ben, surtout une exploitation familiale, comme je l'ai dit. Donc, bon, je suis même ma femme qui est là avec moi.
D'accord.
Je suis même des cousins qui m'aident un petit peu sur mon activité, et puis j'ai aussi des bâtiments qui sont équipés en termes de par exemple de pondoir automatique, de d'abreuvoir semi-automatique. Bon, c'est quand même une exploitation qui est dans la moyenne en termes d'équipement, on va dire.
Alors, pour que l'on comprenne bien, aujourd'hui vous faites vous produisez, vous êtes un producteur d'œufs également, et de la transformation du cochon en viande que vous revendez à des commerçants de Guyane.
Alors, sur ces deux activités, je passe par deux coopératives.
Okay.
Donc, pour la partie volaille, donc je passe par la CACG, donc coopérative avicole et cunicole de Guyane. Une coopérative qui quand même existe depuis 30 ans déjà, hein, je crois, donc avec son président, donc Monsieur Patrick Labranche. Donc je passe par cette coopérative qui m'accompagne aussi techniquement, qui m'accompagne sur la collecte des œufs, mais c'était volontaire, parce que finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
c'est un autre métier.
C'est un autre métier, parce que ça prend du temps, en fait.
Absolument.
Même pour sur la partie commercialisation.
Cela vous laisse du temps pour vous concentrer.
Exactement.
Sur votre cœur,
voilà,
de métier.
Sur mon combat finalement pour la profession agricole, parce que c'est un combat, je répète, il y a du potentiel. Mais finalement, on n'est pas bon sur la politique agricole. Je pense qu'il faut un petit peu revoir les choses. Mmh. Et je parlais à l'époque de plan Marshall, entre guillemets, mais il faut véritablement un plan de développement, stratégique de développement de l'agriculture guyanaise. C'est ce que j'ai dit en 2019, quand on a été aux élections, donc à l'élection de la Chambre d'agriculture. Donc on a mis cela en avant, et moi j'y tiens fortement. Je pense que si on met pas les moyens, on pourra pas développer ce secteur qui, encore une fois, qui a du potentiel. À l'époque, on le voit bien, historiquement, il y a eu effectivement l'arrivée des mangues, ça a quand même boosté la partie végétale.
Totalement.
Il y a eu le plan vert, donc qui a quand même boosté la partie élevage, notamment la production bovine. Donc voilà, ce sont des vagues comme ça, donc de programmes qui font finalement, qui donnent une certaine impulsion finalement au secteur agricole.
Finalement, est-ce que l'agriculture guyanaise n'est pas logée à la même enseigne que l'agriculture française, puisqu'on entend régulièrement, et puis on le voit aussi, hein, dans la presse, les agriculteurs descendre dans la rue, bloquer les rues pour réclamer plus de moyens, que des revalorisations. Est-ce que c'est pas toute la profession finalement qui est en difficulté, quel que soit l'endroit où on se trouve, tant dans un DOM que sur le territoire national?
Alors, c'est sûr que bon, chaque département a quand même ses problématiques. Nous, on a quand même une agriculture qui est, à mon sens, donc une agriculture naissante, hein, qui est une agriculture qui grandit, mais on n'a pas, effectivement, on n'est pas au même niveau que l'agriculture au niveau hexagonal, puisque quand on parle de l'agriculture dans l'hexagone, on parle surtout de reprise d'exploitation, on parle surtout de transmission, de difficultés de transmission des terres. Alors même qu'en Guyane, on crée d'exploitation, on met en valeur, on est plus dans une phase finalement d'installation, de programmation d'installation, d'accompagnement à l'installation, que la France hexagonale. Donc c'est pour ça que je dis, finalement, il faut, pour booster l'agriculture guyanaise, il faut effectivement donc un plan qui est spécifique à l'agriculture. Mais dans, effectivement, de manière générale, enfin, on peut effectivement donc mettre en parallèle certaines difficultés, notamment sur le revenu agricole. Mm-hmm. Sur le revenu agricole, on sait très bien que en France hexagonale, il y a des agriculteurs qui quand même sont à 300-400 euros par mois de revenus. Donc c'est très très peu, on ne peut pas
vivre
ça.
Tout à fait.
Et puis sur la retraite aussi, notamment, parce que ça aussi c'était un combat.
Il y avait un projet de loi. Pardon, il y avait un projet de loi d'ailleurs à ce sujet. Est-ce que la loi a été votée sur la revalorisation des retraites des agriculteurs?
Alors, effectivement, c'était la loi Chassaigne, je crois. Donc, effectivement, il y a une revalorisation donc à hauteur de 85% du SMIC, effectivement, donc pour la retraite agricole, mais à condition d'avoir effectivement avoir eu une cotisation complète. Mais la problématique pour la Guyane, c'est-à-dire qu'on a bénéficié quand même de pas mal d'exonérations, et ce qui fait que on a très peu cotisé, et le système de cotisation s'est mis en place finalement assez tardivement en Guyane. Donc au jour d'aujourd'hui, en métropole, donc France hexagonale, on est à peu près à 800 700 euros, donc ça a été revalorisé, ça augmente un petit peu, on est après à 1000 et quelques euros aux environs. Et en Guyane, donc on reste toujours, on avoisine les, tenez-vous bien, 350-400 euros pour une retraite agricole. Donc c'est très peu, c'est très très peu. Donc on continue à se battre, on continue finalement à se battre, parce qu'il faut se battre aussi avec les parlementaires. C'est un petit peu dommage que je me suis rapproché à l'époque donc de monsieur Serville, du député Enaïk Adan. Bon, on n'a pas pu se voir sur ce sujet-là, mais c'est, moi je pense qu'il faut continuer le combat, parce que on ne peut pas admettre finalement qu'on travaille toute une vie et puis qu'on arrive à la retraite et qu'on nous dit qu'on touche 300, 350, 400 euros. C'est juste pas possible.
Tout à
fait.
C'est
juste pas possible. Après, là, moi je pense qu'il y a quand même une possibilité de revoir les choses, notamment sur la loi de finances, qui arrive. Donc je pense qu'il faut renégocier les choses, et voilà, de manière à travailler sur ça, parce qu'il faut savoir qu'avec la Confédération paysanne, justement, donc parce que le Grage est affilié à la Confédération paysanne depuis une vingtaine d'années. Donc je suis moi-même référent donc au niveau des DOM pour la Confédération paysanne, et on s'est battu sur ce dossier-là, entre autres, parce qu'il y a d'autres dossiers, il y a le POSEI, voilà, il y a plein d'autres choses, mais sur la retraite, on s'est quand même battu et on continue à se battre, parce que j'avais rencontré le sénateur Karam à Paris, et effectivement on a échangé sur le sujet au Sénat.
Cela paraissait légitime que la retraite des agriculteurs soit revalorisée. Selon vous, pourquoi ce projet de loi n'a pas abouti?
Pourquoi ça n'a pas abouti, moi j'en sais rien. En fait, j'ai pris le dossier effectivement en cours, mais de ce que j'ai pu comprendre quand même, il y a aussi un problème de coordination donc entre les députés, sénateurs des DOM. Hein, je pense qu'il y a une commission quand même, une commission DOM, que ça soit au Sénat et au Parlement. Donc je pense que sur certains sujets, notamment la retraite, on devrait être en mesure de travailler davantage, d'accord. Donc je parle des Outre-mer, mais je pense que même entre nous, nos élus, je pense qu'ils devraient être en mesure de travailler, de porter en commun ces dossiers-là. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra se faire entendre, tout simplement.
Alors il y a les pays voisins, les mêmes hors communauté européenne qui nous envient, qui nous jalousent, qui disent que il faut les agriculteurs reçoivent trop de subventions de l'Europe, et malgré cela on constate alors déjà on a des difficultés à pouvoir concurrencer, il y a une concurrence qui se fait à l'intérieur même, peut-être que la Guyane on est moins concerné par cela, mais sur certains produits en France, les agriculteurs français ont du mal à concurrencer les Espagnols ou les Portugais. Tout ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que malgré cette aide que l'Europe apporte aux agriculteurs en particulier, on constate qu'il y a quand même énormément de difficultés, et on a l'impression que cela ne suffit pas. Et de l'autre, on a un autre son de cloche qui demande justement à stopper ces aides qui seraient trop importantes, faramineuses.
Alors,
c'est une mauvaise lecture que l'on a de la situation.
Moi, je pense, Monsieur Plaisir, parce que c'est un petit peu dommage en fait, hein, quand cette image pendant l'agriculture, parce que
qui est sur subventionné finalement.
Ben, en fait, c'est pas Je dis que non, parce que faut savoir que quand on parle d'aide, comme je disais tout à l'heure, donc si vous n'avez pas un système bancaire finalement qui vous suit, vous pouvez pas mobiliser ces aides. Il faut quand même apporter un certain pourcentage. On a la dotation jeune agriculteur qui devrait finalement servir à l'agriculteur sur sa partie trésorerie. Mmh. L'agriculteur utilise cet argent, finalement cette dotation, pour son apport personnel sur les 25%. D'accord? Parce que, comme j'ai dit, de manière générale, il y a toujours un pourcentage, qu'on peut pas aller au-delà de 75% d'aide publique, toute aide publique confondue. D'accord? Après, de manière générale, contrairement aux autres départements, ça veut dire que la Guyane a quand même sur ses produits donc une plus-value. La Guyane quand même produit et a une valeur ajoutée quand même sur sa production contrairement aux départements. D'accord, la plupart vous avez vu sur le POSEI par exemple, rien que sur le POSEI donc finance énormément donc la banane et la canne. Mm-hmm. Et moins finalement la partie diversification, moins la partie maraîchage, la partie en tout cas autre élevage, etc. Et donc on se bat, ça aussi c'est un combat au niveau de l'ODEADOM, c'est enfin au niveau de l'office donc qui rassemble finalement l'ensemble des départements d'outre-mer. Et finalement quand vous regardez bien, donc on est à 65 millions d'euros sur le POSEI pour la Guadeloupe, 115 millions d'euros pour la Martinique, la Guyane on était sur 6 millions d'euros. Donc vous voyez là quand même cette différence et donc on ne peut pas dire effectivement que les agriculteurs sont sur subventionnés. Moi je veux pas l'entendre cela parce que je me dis que on a tellement finalement à faire. J'ai dit quand je me suis installé, donc j'ai pu quand même bénéficier de mon salaire pour réinjecter finalement donc sur mon exploitation. Ça demande de gros investissements lourds au départ en termes d'aménagement, en termes de viabilisation, en termes d'équipement, en termes de mise. Bref, ça demande pas mal d'investissements et finalement c'est charge à nous d'orienter ces aides, charge à nous d'orienter ces subventions qui sont encore une fois, je dis très par moments compliqué à accéder parce que un manque de système bancaire finalement pour suivre l'agriculteur dans son dossier, deux finalement une lenteur administrative qu'on dénonce toujours, une lourdeur administrative qu'on dénonce toujours au niveau de l'administration. Donc tout ça faire ça évoluer et c'est là finalement qu'on pourra mobiliser finalement ces aides et installer davantage d'agriculteurs dans de bonnes conditions.
Monsieur Jean-Yves Tarcy, pour terminer cet entretien, j'aimerais que l'on aborde la question des marchés, qui est un lieu extrêmement important, aussi bien pour vous, agriculteurs, et les consommateurs, qui aimeraient bien évidemment avoir de plus en plus de marchés, si possible pas trop loin de chez eux. On a vu pendant la crise sanitaire des marchés improvisés ou des installations également des marchés à des endroits auxquels on n'était pas forcément, qui n'étaient pas forcément attendus. Quelle est votre politique dans ce domaine du développement des lieux de commercialisation finalement des produits des agriculteurs?
Alors, il faut savoir, comme je dis souvent, le syndicat agricole, son rôle c'est pas de gérer les marchés. Bon, nous, enfin, on installe donc les agriculteurs, on contribue en tout cas à développer ces marchés, mais on n'est pas pour gérer ces marchés. Donc, pour l'occasion d'ailleurs, je pense au marché de l'IPRU, donc on a contribué, on a créé finalement une association pour gérer ce marché. Moi je pense qu'il faut garder les deux, effectivement il faut garder nos marchés de proximité, c'est important, c'est essentiel finalement pour la vie. Déjà qu'on a très peu de vie en société, de plus en plus de contacts humains, de relationnels, d'échanges. Donc je pense qu'il faut garder effectivement ces marchés de proximité, mais il faut aussi continuer à organiser, à planifier donc la production végétale, et c'est ce qu'on est en train de faire au travers de l'interprofession avec qui on travaille via la chambre d'agriculture notamment, donc très bien sur la mise en place de filières végétales organisées, parce que de toutes les façons on n'a pas le choix, je vous dis, parce qu'il y a On a des enjeux à venir en termes de alimentaire. On parle d'autosuffisance alimentaire au niveau national. Ça, il faut s'organiser et répondre à cela. On parle de la loi Egalim, donc qui d'ici 2022 donc va exiger un certain nombre de pourcentages de produits. Donc c'est 50% de produits agricoles locaux, dont 20% de produits bio. D'accord? Ben, ça, il faut qu'on puisse se préparer pour répondre finalement à cette demande, à ces besoins. Donc, moi, je pense qu'il faut garder les deux et continuer finalement à développer ces petits marchés de proximité avec l'appui finalement aussi des mairies et les mairies qui jouent le jeu. Bon, il y a des mairies avec qui les échanges sont avec lesquelles les échanges sont compliqués, mais
lesquelles?
Je vais pas froisser qui que ce soit, mais c'est vrai que c'est moi je pense qu'il faut discuter, il faut échanger, il y a des commissions au sein de ces mairies, donc il faut ne pas hésiter à nous inviter, à inviter la chambre d'agriculture, voire même inviter les syndicats de manière à ce qu'on puisse satisfaire le plus grand nombre, puisque il y a des marchés, vous avez vu par exemple sur le marché de Saint-Laurent, il y avait une grève, donc c'est un petit peu compliqué à trouver des places pour finalement les agriculteurs. Donc on a pu trouver une solution avec un nouveau terrain pour installer ces agriculteurs, mais il faut réorganiser les choses puisque nous sommes obligés avec la crise sanitaire de revoir les choses. Mais si on peut finalement donc diviser les marchés, bon, ça demande plus de moyens logistiques, moyens humains, moyens techniques au niveau des mairies. Mais je pense que c'est avec l'échange, avec la discussion, avec la communication qu'on pourra finalement améliorer les choses. Et Cayenne, on a su finalement donc avoir plusieurs marchés, donc que ça soit privé ou marché public. Mais je pense qu'il faut continuer, dans ce sens-là, parce que j'ai toujours des agriculteurs qui viennent me voir pour me dire qu'ils n'ont pas de place sur les marchés, qu'ils ne peuvent pas, bref. Donc, il faut effectivement garder ces marchés, je le redis, mais il y a aussi le circuit long, parce que le marché c'est le circuit court, mais le circuit long aussi à honorer avec les grandes surfaces, avec les interprofessions.
Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Jean-Yves Tarcy. Je rappelle que vous êtes le président du groupement régional des agriculteurs de Guyane, GRAGE, vice-président de la Chambre d'agriculture et vice-président du GIP SAFER.
Il n'y a plus GIP SAFER, comme je vous ai dit tout à l'heure, finalement, on a passé cette phase de préfiguration et le 10 mai, il y a eu l'Assemblée générale constitutive. On a signé les statuts, donc il y a une démarche d'agrément avec l'accompagnement de la FN SAFER. Et après, à la demande du congrès des élus, donc on a repoussé l'élection de la présidence, en tout cas de la constitution du conseil d'administration.
C'est un poste qui pourrait vous intéresser, la présidence de la SAFER?
J'ai déjà pas mal à faire au sein de la Chambre d'agriculture et dans mon syndicat, mais on a déjà notre syndicat, on a déjà notre candidate, voilà. Mais je dirais pas plus pour l'instant. Donc vous allez découvrir. Voilà.
Cette émission est à retrouver en multidiffusion sur nos antennes de Cayenne, de Saint-Laurent, du Maroni et sur l'ensemble des réseaux sociaux, la chaîne YouTube de la radio, Instagram, notre page Facebook, Twitter et également LinkedIn. Je vous remercie de l'avoir suivi.
Merci à vous.
Et on se retrouve très bientôt sur Radio Mayuri Campus. Au revoir.
Au revoir.